Infiltrée, une femme au stup. Un plan hyper urgent. Dans notre groupe, j'ai retrouvé André, un camarade qui était avec moi à l'école de police. Il a un tuyau sur des Sénégalais qui vendent de l'héros pour le compte d'un trafiquant corse. Un tonton, après plusieurs rendez-vous, lui dit qu'ils ont un kilo d'héroïne à vendre, que c'est hyper urgent. Il faut toujours se méfier des plans hyper urgents. Soit c'est pour vous piquer votre argent, soit c'est pour refourguer de la mauvaise qualité, soit c'est de la drogue volée à un autre trafiquant. Dans ce cas-là, les types cherchent à s'en débarrasser rapidement pour se faire de l'argent et disparaître dans la nature. André a enfin rendez-vous dans le 12e, près du boulevard de Picpus, avec un des Sénégalais. Il a été décidé qu'une nouvelle fois, j'allais faire couple avec lui, pour la rencontre avec le trafiquant. Mon soi-disant mari est un mec très cool, musicien, avec des cheveux longs. Nous nous connaissons bien, nous avons planqué des heures et des heures ensemble, et nous nous sommes déjà raconté au moins 10 fois nos vies. Nous sommes raccords, comme on dit. Pour le coup d'achat, il a à peine besoin d'accentuer sa dégaine rock'n'roll. Quant à moi, je porte mon perfecto, comme d'habitude. C'est mon habit magique, ma cape de super-héroïne à moi. L'opération est prévue pour le lendemain. Les autres seront en filature, avec les voitures suiveuses, la moto, les piétons et tout le bastringue. Le commissaire chef de section s'est invité dans le dispositif. La hiérarchie, pendant ce genre d'équipée, c'est tantôt bien, tantôt un boulet pour nous. Lui, il a tendance à hurler dès qu'une voiture pète un feu. J'ai un micro caché dans mon soutien-gorge. Pas trop enfoncé pour que cela marche, et suffisamment pour ne pas qu'on le voie dans le décolleté, avec le fil scotché sur le corps et le boîtier sous mon jean. Le sketch habituel. Rappelons-nous que nous sommes en 1993, un autre siècle en ce qui concerne la technique audio, sans parler du reste. Avec Pascal, alias Moumoun, le roi des objets connectés de l'époque, à qui je montre mes dessous pour la bonne cause, nous faisons des essais au bureau, puis à l'extérieur. Tout marche. André n'est pas équipé en radio, mais puisque nous sommes un couple, nous ne sommes pas censés nous séparer. Au rendez-vous à 17h, il n'y a pas un, mais deux Sénégalais, grands, sapés comme des bantus, l'air pas aimable. Il faudra faire avec. Ils nous disent qu'ils n'ont pas la drogue sur eux, qu'il faut aller dans un bar. Ils nous demandent de les emmener en voiture avec nous, car ils sont à pied. Emmener des mecs avec soi, cela change la donne. Ils peuvent nous menacer, voire nous braquer. J'avais entre 30 000 et 35 000 francs cachés dans mes affaires. On se regarde avec André. C'est compliqué, car il faut communiquer par le regard, sans que le type s'en aperçoive. On dit banco. Nous ne pouvions pas dire non. Nous aurions tout grillé. Les mecs s'installent derrière moi et je monte devant. André conduit. On passe par la nation. Je joue la pipelette qui commente tout ce qu'elle voit, en espérant que le micro marche. Par exemple, quand on arrive à République, pour le signaler aux collègues qui pourraient nous avoir perdus, je m'exclame « Ah, République! Tu te rappelles le concert de Joe Cocker l'année dernière comme c'était bien ?» Je m'ingénie à jalonner de commentaires idiots le trajet que le mec nous ordonne de suivre. À un moment, il nous dit qu'on va vers Saint-Lazare. Je regarde discrètement dans le rétro et je ne remarque aucune voiture du dispositif. Ou bien ils sont excellentissimes, ou bien on les a paumés. Car ils ne s'attendaient pas à ce qu'on parte de Picpus où était le rendez-vous. En fait, comme je le comprendrai plus tard, l'équipe protectrice et d'interpellation a bel et bien été déstabilisée. Pire, ce fichu micro ne fonctionnait plus. Ils nous ont donc bien vu partir, mais ils nous ont perdus. Et ils n'ont pas pu entendre mes fines remarques pleines d'indices. Pour l'instant, je ne le sais pas et je continue mon petit jeu. On finit par arriver derrière la gare Saint-Lazare. On se gare, on descend de la bagnole. J'ai un petit sac avec le pognon sous mon perfecto. Mais je ne le montre pas. Les mecs tambourinent à la porte d'un bar africain. Quelqu'un soulève un rideau, ouvre la porte et ferme à clé derrière nous. Nous nous retrouvons dans un lieu très sombre, un peu bar à pute. Le mec parle en wolof à toute vitesse à une nénette africaine, pas du genre gazelle. Bâtie comme un tank, avec une jupe pas plus large que sa ceinture et les seins qui débordent. Certainement très avenante pour les chalands de ce genre d'estanco. On nous fait asseoir sur des espèces de fauteuils bas en juponné. J'allume une clope pour la contenance. Un des Sénégalais me prend alors par le bras et me dit « Toi, tu viens avec moi. » Cela ne me plaît pas. Je fais un peu traîner, mais le mec m'entraîne dans la cave du bar. Je me dis que je vais me faire passer par les armes. Après coup, je crois qu'il tentait juste un coup de drague. Dans la cave, il m'explique en détail la façon dont il veut l'aménager. Un truc un peu lounge, tu vois. Où des filles feraient des passes. Moi, j'acquiesce. Je trouve toutes ces idées brillantes. Je ne suis pas avare en compliments, histoire de lui en mastiquer une surface. Surtout ne jamais inquiéter l'adversaire. Jouer la gonzesse qui a l'habitude de traîner ses basques dans les claques parisiens. Je la joue donc M6 déco avant l'heure, et je lui donne mon avis. Mais il se colle à moi, c'est un peu malsain. Je demande plusieurs fois pour le rappeler à la réalité. Alors, il arrive à quelle heure le Corse ? C'est lui qui doit venir avec la marchandise. Les deux Sénégalais sont visiblement ses lieutenants, ses rabatteurs. Pendant ce temps, André se demande ce que je fabrique. J'étais censée être sa copine. Donc il pouvait s'inquiéter. Enfin, on revient de notre voyage dans les catacombes et on s'assoit. On boit un café. Le temps passe, interminable. Assise comme je suis, je peux observer un bout de rue. Pas un chat et toujours personne de chez nous. Je compte mentalement. Les deux Sénégalais, l'Africaine balèze et le Corse, c'était trop pour une interpellation à deux. Si le Corse arrive, met la cam sur la table et que j'achète la drogue, on l'a dans le baba. Parce qu'on aura filé le pognon sans pouvoir les interpeller. J'entends déjà les cris de la hiérarchie si l'argent de la maison Poulaga est dépensé pour rien. Je profite alors d'un moment où il ne me regarde pas et glisse mon paquet de clopes sous les juponnages de mon fauteuil. Je regarde André intensément.
Ah zut, zut, j'ai plus de cigarettes.
Il comprend à mon regard qu'il n'a pas intérêt à sortir les siennes. Je demande au Sénégalais pour la énième fois si le Corse en a encore pour longtemps. Il me répond qu'on l'a appelé, qu'il va venir avec un peu de retard. Je fais ma capricieuse. Il est hors de question que j'attende sans clope et je vais en chercher au tabac du coin. André a pigé. Je me lève très calmement. Le black m'accompagne à la porte, l'ouvre, sort avec moi, mais à ma grande joie, me montre le tabac sans faire mine de m'accompagner. Mon cœur bat la chamade. Je m'efforce de marcher posément, comme la fille très décontractée que je suis. Une fois entrée au café tabac, je vérifie que le type est trop loin pour me surveiller. Le champ est libre. Il faut faire vite. Je pousse un client. Me jette sur le buraliste, sors ma carte de police, que je n'aurais jamais dû garder sur moi, en hurlant « Téléphone !» Le buraliste comprend qu'il y a une urgence et sort le téléphone de derrière le bar. Je fais les numéros de la permanence des stupes. Je tombe sur un autre pote de promo, Xavier, qui me dit « Oui, quitte pas, je suis en ligne. » Je lui réponds « Ta gueule, je te donne une adresse, t'appelles les Saphirs, notre unité, à la radio, tu envoies tout le monde !» C'est chaud pour nous. Je raccroche. J'achète un paquet de Rothmans
et je ressors après avoir pris une grande respiration. Sur le trottoir, je m'allume une clope avec délice et lenteur, comme si c'était la première après des jours d'abstinence. Le Sénégalais m'attend toujours devant la porte. Je regarde André en finissant de fumer. « Eh bien, ça va mieux, hein ? Ça me manquait. » Il me sourit des yeux. « Bien joué, ma petite. » Vingt minutes mortelles passent. On parle, mais la conversation est limitée. Ils ne disent pas grand-chose et nous regardent d'un air impénétrable. Que peuvent dire des flics parisiens sous couverture à des trafiquants sénégalais ? Leur demander d'où ils viennent, s'ils ont fait des études ? Le silence devient plombant. Comme nous sommes censés acheter, ils nous demandent alors si on a l'argent. Je dis que oui, mais pas sur nous. Je laisse entendre qu'il est dans la voiture. Soudain, regardant par la vitrine, malgré les voilages, je vois un mec de mon groupe qui passe. André l'a peut-être vu aussi. Et puis l'attente se prolonge. 1 heure, 1 heure 30. Il faut prendre une décision. Si nous sommes vraiment des acheteurs, nous pouvons considérer que ce Corse ne tient pas sa parole. Nous nous indignons vivement. « Ah, mais on va pas passer la soirée ici. Il faut absolument le joindre au téléphone. » N'oublions pas que le portable n'existe pas encore. Le Sénégalais va vers le fond du bar. On n'entend pas la conversation. Il revient et nous dit qu'il faut qu'on aille maintenant à Rosny-sous-Bois. Alors là, si c'est pour aller se faire zigouiller là-bas, certainly not. Si ça se trouve, il n'y a pas plus de Corse que de beurre en branche. Il fallait qu'on sorte de ce fichu bar. On leur dit qu'on doit réfléchir. André leur raconte qu'on a des choses à faire ce soir, mais qu'il les rappellera le lendemain. Nous repartons, toujours un peu nonchalants, pas si fiers que ça, et nous remontons enfin dans la voiture. De retour au 36, débriefing du siècle. Je hurle parce que la radio n'a pas marché, et qu'en plus l'équipe nous a perdus. Ça arrive, ce n'est pas grave. Mais je suis très remontée car j'ai eu peur dans cette cave, dans ce café sinistre. Je dis au commissaire, « Vous vous rendez compte de ce qu'on a vécu ? Le stress que c'était ?» Les gens qui ne font pas de coup d'achat n'ont aucune idée de la mise en danger que cela représente. « Bon, on vous aurait retrouvé dans un bordel à Dakar. » Cela ne me fait pas rire du tout. Je lui rétorque qu'il n'a même pas été fichu de nous retrouver dans un bordel à Paname. À lui de faire la tronche. Le lendemain, André a bien repris contact, mais cela n'a pas pu se faire. Cette affaire n'aboutira pas. Pourtant, elle a été extrêmement formatrice pour moi. J'ai compris que les paramètres ne sont jamais tous réunis. Dans un coup d'achat, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser ou auxquelles on n'aurait jamais pensé. Rien n'est certain. Heureusement que j'étais avec André. Il y a un proverbe africain qui dit « Tout seul, tu vas plus vite. À deux, tu vas plus loin. » Et c'est vrai qu'à deux, c'est moins dur, même si c'est parfois plus délicat. C'était les débuts de l'infiltration. À part mon ami José, qui en avait une grande expérience, il n'y avait personne pour nous conseiller. On nous envoyait faire un coup d'achat par rapport à un look qu'on avait. C'est-à-dire que ceux qu'on envoyait acheter de la drogue en infiltration, c'était soit des Antillais, soit des mecs assez typés, soit moi, la grande blonde, ou rousse, de service. On peut dire que les minorités de la police nationale avaient droit à ce qu'on les oriente en premier vers l'undercover.